Je suis dans le Parler Berlinal avec Gaspard Huel, bonjour.
Bonjour.
Alors aujourd'hui, le temps est un petit peu maussade. Peut-être qu'il est dans l'ambiance du film, justement, très particulier, Eva, le film de Benoît Jacquot, dans lequel vous partagez l'affiche avec Isabelle Huppert. Comment ça s'est passé, cette rencontre? Parce que quand on avait rencontré Benoît Jacquot il y a 2 ans à la Mostra, il ne nous avait pas parlé de ce projet. Donc on imagine que c'était peut-être comme un coup de foudre entre deux personnes qui devaient travailler ensemble.
Un coup de foudre, ouais, il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là. Mais c'est vrai que notre rencontre remonte à plus de 10 ans. On s'est rencontrés sans réellement se rencontrer. Hein. On s'est croisés plus qu'on ne s'est rencontrés à plusieurs reprises pendant de nombreuses années. Et on a tout de suite manifesté, chacun à l'égard de l'autre, une réelle envie d'un projet commun, d'un jour faire un film ensemble. Et voilà, ça a fini par arriver le jour où il m'a proposé, où il m'a parlé plutôt de cette idée d'adapter le roman de James Hadley Chase. Et à ce moment-là, il n'avait pas encore écrit le scénario, donc il m'a donné un synopsis et il m'a invité, il m'a dit libre à toi de lire le roman et de voir le film de Lozay, puisque lui-même se basait sur son simple souvenir de ces deux éléments pour l'écriture du scénario. Il n'a pas souhaité relire le livre, le roman, ni revoir le film de Lozay. Bon, moi, j'ai pas pu résister, donc évidemment, j'ai lu le livre de Chase dans un premier temps, ensuite j'ai eu une version du script et puis j'ai fini par regarder le film de Lozay.
Et ça vous a beaucoup influencé dans votre appréciation et surtout dans l'incarnation de votre personnage ?
Mais pas tant que ça, en fait. Puisque je trouve que le film de Lozay est très différent. Même s'il y a une sorte de continuité logique, je trouve, entre le cinéma de Lozay et celui de Benoît Jacquot. Mais là, en l'occurrence, le film de Benoît ressemble pas du tout au film de Lozay, et même le script s'éloignait souvent assez clairement de la trame du film de Lozay, et même voire du roman. Hein. C'est-à-dire que Benoît a du coup
pris des distances,
a amené son propre univers comme un calque supplémentaire sur la trame narrative du roman. Ouais.
Ce qui surprend dans cette rencontre improbable, c'est la différence déjà de niveau social. Ça vous a inspiré pour justement travailler sur ce personnage ?
Surtout pour moi, ça me semble être un thème récurrent aussi bien dans les romans de Chase ou même dans les romans noirs en général, et dans le cinéma de Benoît Jacquot, voire dans le cinéma de Lozay aussi. Mais c'est vrai qu'il y a souvent ce rapport de classe, cette tectonique des classes, ces classes qui s'affrontent, qui se rencontrent. Et puis il y a aussi cette figure récurrente du héros ou de l'héroïne qui essaye de sortir de sa condition, de sortir de ses servitudes. Et là, pour le coup, ça passe par un mauvais coup, j'ai envie de dire, qui d'un coup va faire basculer le personnage qui est en quelque sorte pris à son propre piège.
Ça rappelle aussi certaines atmosphères des films de Chabrol. Vous l'avez senti
oui,
comme
oui,
ça ?
Oui, il y a quelque chose de très chabrolien, c'est vrai. C'est vrai. Après, il y a ce qui me fascine dans le film, c'est qu'il y a quelque chose d'étonnamment très mental, qu'il y avait peut-être moins dans le roman et dans le film de Lozay. Là, on est dans quelque chose de purement mental, qui d'un coup devient presque étourdissant. Il y a une sorte ça devient presque vertigineux. Ouais. Sur justement le rapport de faux-semblants, de duperie permanente. Est-ce que les personnages se mentent l'un à l'autre? Est-ce qu'ils se mentent pas encore plus à eux-mêmes? Qui sont-ils réellement? Il y a aussi un gros questionnement sur l'identité. Et ce sont des thèmes qui, évidemment, sont au cœur de notre métier, hein, du cinéma, et même de l'approche de l'acteur. C'est-à-dire que le cinéma est en quelque sorte un grand mensonge qui dit la vérité. Donc ce jeu de faux-semblants, ce jeu de mystification, pour moi était très excitant. Ouais.
La discrépance entre la réalité et en fait l'image, le masque que l'on porte.
Voilà, il y a ça aussi. Il y a ce masque social, évidemment. Et puis, il y a aussi très rapidement une autre dimension qui s'ouvre quand on voit le film. C'est on peut très rapidement se demander qu'est-ce qui appartient au réel, qu'est-ce qui n'appartient pas à la réalité,
qu'est-ce qui
est fantasmé, qu'est-ce qui n'est qu'une pure projection. Alors voilà, après, libre à chacun de se raconter ce qu'il veut, mais il y a même des séquences entières où moi je m'interroge, je me dis est-ce que ce n'est pas juste un songe, une rêverie de mon personnage, est-ce qu'au final Eva n'est pas juste la projection de ce que Bertrand a voulu mettre en elle, puisque il apparaît dès le départ qu'elle représente la matière vivante de son œuvre à venir, puisqu'on parle d'un romancier ou d'un dramaturge qui d'un coup a une panne d'inspiration, est incapable de fournir son...
La page blanche.
Voilà, et il voit en cette femme une potentielle source d'inspiration, et voilà, il la voit un peu comme sa planche de salut qui lui permettra de sortir de l'impasse dans laquelle il est.
Ou une sorte de quête du Graal.
Oui, pourquoi pas. Ouais.
Parce qu'il y a aussi la dimension émotionnelle, en tout cas la dimension d'attraction.
Oui, il y a cette attraction, mais que moi j'ai voulu souvent laisser un peu inexpliquée. C'est vrai que quand Benoît m'a parlé d'Isabelle au départ, ça m'a surpris parce que c'était pas forcément écrit avec une telle différence d'âge entre les deux personnages. On a un souvenir du roman et du film de Chase et du film de Lozay comme étant peut-être plus sexuel, plus... voilà, il y a une dimension plus sexuelle qui là, moi je trouve existe encore, mais de manière déplacée. Et c'est vrai que du coup, voilà, ça m'a surpris au départ Isabelle. Et puis très rapidement, je me suis dit, mais non, en fait, c'est très malin de la part de Benoît, puisque ça amène le film ailleurs, dans des zones peut-être plus intéressantes. Voilà, le désir de toute façon ne s'explique pas, c'est l'ordre de la pulsion. Et en fait, du coup, pour moi, ce phénomène d'attraction. C'est aussi, mais avant tout peut-être, l'idée d'un jeu permanent de résonance et de miroir, puisque ce sont deux personnages qui immédiatement se reconnaissent comme appartenant à la même race, venant un peu tous les deux du même endroit, et voilà, c'est la rencontre de deux menteurs.
Est-ce que, en tant que comédien, Gaspard Huyel, vous sentez aussi là-dedans les ingrédients de la tragédie grecque?
Oui, alors il y a un sens du tragique aigu de toute façon, souvent chez Benoît, et peut-être là encore plus, puisque pour moi on est clairement dans un schéma tragique, dans le sens où le héros est inévitablement soumis à un destin, à une fatalité, avec une... Pour moi, c'est une sorte de chute, une lente chute dans le vide, et il essaye en vain de s'accrocher à...
Trouver des aspérités.
Voilà, sur une surface lisse, en fait. Il s'accroche à des chimères, il s'accroche à Eva comme une chimère pour essayer de ralentir cette chute. Ouais.
Et le spectateur est rapidement mis en immersion dans cette dimension tragique parce que la séquence d'ouverture, elle est surprenante. C'est une sorte de flashback sur justement ce qui va poursuivre, ce qui explique le destin de ce protagoniste.
Oui, ce passage à l'acte, ce saut dans le vide, en fait. C'est vraiment le moteur de l'intrigue. Et pendant longtemps, c'est une séquence qui était placée différemment dans le scénario.
C'est-à-dire pas au début.
Voilà, c'était une sorte de flashback. Mais alors, je sais pas si c'est moi ou Benoît qui un jour a eu l'idée de
la
mettre en ouverture. Et pour moi, ça faisait vraiment sens, puisque j'avais l'impression que toutes les séquences qui existaient avant ce flashback, du coup, perdaient d'une certaine manière une certaine saveur, un sens. Puisque pour moi, ça me paraît fondamental d'exposer d'emblée le personnage comme étant un imposteur.
On va pas tout dévoiler du film, en fait on comprend que son succès est usurpé.
Voilà, on peut le dire puisque c'est ce qui ouvre le film.
Et comment vous avez travaillé sur le plateau avec à la fois Benoît et Isabelle, puisqu'ils se connaissent bien, c'est leur 6e collaboration. Est-ce que vous étiez totalement intégré dans ce binôme qui fonctionne depuis longtemps?
Oui, en fait, paradoxalement, comme il y avait cette intimité flagrante entre Isabelle et Benoît, ça m'a permis tout de suite de rentrer dans un rapport assez similaire avec les deux. Et puis Benoît est quelqu'un de toute façon très...
Bienveillant.
Très bienveillant, très accueillant, très courtois. Oui, quelqu'un de délicieux, je dirais, vraiment, à tous égards. Et puis c'est vrai que comme on s'est beaucoup vu en amont, on s'est rencontrés quand même assez régulièrement pendant tout le processus d'écriture. Du coup, voilà, déjà, ça donne un avant-goût de... Et très rapidement, j'ai vu que c'est quelqu'un qui m'offrait une grande confiance. Déjà par le simple fait qu'il m'a permis, ce qui est assez rare, d'influer un petit peu sur l'écriture, de me positionner par rapport à certaines directions que prenait le scénario et de même d'y ajouter ou d'y soustraire certaines choses.
Ouais. C'est-à-dire qu'il est très sensible et réceptif à ce qu'on lui propose en tant qu'acteur ?
Bah, en tout cas, là, oui. Je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais il me semble que oui, puisque pour moi, ça fait partie de ces réalisateurs qui mettent vraiment l'acteur au centre, enfin, je dirais plutôt l'actrice. Voilà, c'est, pour une fois, c'est un peu différent. Mais
en général, c'est un tandem.
Oui, en général, c'est souvent le personnage féminin qui est le moteur de l'intrigue. Et enfin, oui, c'est souvent l'acteur ou l'actrice qui est au centre de son désir de cinéma et de son dispositif.
Ouais. Il a une caméra très subjective. Ça vous plaît comme genre d'approche ?
Enfin, en tout cas, là, oui. Après, c'est quelqu'un qui s'adapte aussi au genre et à l'histoire qu'il raconte. C'est ça que j'aime bien chez Benoît, c'est qu'il a un cinéma assez éclectique, malgré le fait que, pour moi, oui, effectivement, il y a souvent quelque chose qui est récurrent, en tout cas dans les thèmes abordés et même dans sa mise en scène assez minimaliste. C'est quelqu'un qui travaille sur l'idée qu'un détail peut tout d'un coup prendre... une force absolument inédite la question initiale
c'était immersif en tout cas dans immersif,
oui
film.
Oui bah c'est vrai que là souvent on est voilà on suit mon personnage et
dans l'habitacle de la voiture déjà
oui et puis il y a l'idée qu'à un moment même on est presque dans sa tête hein, puisque on est dans un rapport très cérébral très mental Benoît me l'a décrit très rapidement comme ça, son film, même avant de l'avoir écrit, comme un thriller mental. Alors c'est vrai que voilà, là, on communique dessus un peu, plutôt en le qualifiant de thriller psychologique, mais je trouve que mental, c'est encore plus intéressant et plus juste par rapport au film. On est dans un rapport mental permanent entre ces deux personnages et l'action est principalement mentale.
Dès la séquence d'ouverture. Vous êtes ici à la Berlinale. Le film a été présenté justement à la presse il y a deux jours là, en compétition. Comment vous vivez la Berlinale et c'est une atmosphère assez paisible hein, par rapport à Cannes.
Ah ouais, on a l'impression que tout le monde a déserté. Quoi.
Non, c'est pas le cas, ils sont là. Hein.
Je sais,
les fans sont là.
Par rapport à Cannes, moi c'est ma première fois. Donc,
In Berlin.
In Berlin tout court, surtout.
Disney in Berliner, dirait JFK. Ouais, hein.
Mais. mais en fait, j'ai envie de. Ça faisait longtemps que j'avais envie de découvrir Berlin, au-delà de la Berlinale. Bon, malheureusement, là, j'ai vraiment pas eu le temps de découvrir quoi que ce soit.
Parce que là, Potsdamer Platz, vous êtes où auparavant il y avait le mur et le No Man's Land avec les Miradors.
Donc, c'est impressionnant.
C'était ici.
Ah, je pensais que c'était plutôt là où il y a la grande porte. J'arrive pas à.
La Potsdamer Platz, Brandenburg,
oui.
Non, c'était ici. Enfin, partout, hein, ça traversait la ville. Mais vous avez encore des pans de mur là sur la Potsdamer Platz.
J'ai même pas vu.
Voilà.
Mais sinon, le festival en lui-même, ça fait partie des plus importants hein, dans le monde. Donc. C'est un réel honneur et un vrai plaisir d'être ici en compétition en plus. Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose de beaucoup plus paisible qu'à Cannes.
Et discipliné.
C'est assez agréable. Oui, à ça, pour le coup, il y a une certaine rigueur. Oui, hein,
germanique.
Germanique, voilà, si on peut dire.
Et je sais qu'on est là pour Eva, mais on en a déjà beaucoup parlé. Est-ce qu'on peut parler de vos projets ? Est-ce que vous avez,
oui, bien sûr. C'est vrai que d'habitude, j'aime espacer le plus possible, il ne faut peut-être pas exagérer, mais essayer de ménager certaines plages de respiration entre les projets. Et là, pour le coup, après, quand on a des projets qui nous plaisent, qui s'agencent d'une certaine façon, parfois on n'a pas le choix. Donc cette année, j'ai quand même enchaîné 4 films, dont celui-ci. Enfin, quand je dis cette année, c'est l'année dernière, parce
2017.
Qu'on est en 2018. Il y avait le film de Benoît Jacquot, donc Eva. Il y a un film qui sort également ce mois-ci, mais c'est une plus petite sortie. C'est un cinéma plus confidentiel et surtout très iconoclaste, un peu inclassable. C'est un réalisateur qui s'appelle F.J. Hossang, François-Jacques Hossang, qui a fait 5 ou 6 films déjà, Le Trésor des îles Chiennes, Docteur Chance. Et c'est inclassable, c'est... pour moi une sorte de résistance poétique. On est souvent dans des mondes fantasmés, une sorte de dystopie, avec une esthétique qui rappelle directement les films avant-garde des années 20 ou les grands films de l'expressionnisme allemand, Murnau, Fritz Lang, ce genre de films, avec des références qui sont aussi souvent plus littéraires que cinématographiques. Voilà, on pense à des grands auteurs d'aventure, comme Conrad, où ça fait penser à Moby Dick, tout le film se passe sur un cargo. Et surtout, pour moi, voilà, on pense à Rimbaud, il y a Lautréamont qui est cité dans le film. Enfin, voilà, il y a une vraie dimension littéraire, même dans les dialogues, la façon dont les personnages se répondent. Quelque chose qui appartient aussi à William Burroughs, un peu, de la Beat Generation. Voilà, moi c'est une œuvre qui me touche réellement, que je ne connaissais pas en fait. La productrice m'a contacté, m'a envoyé les DVD et j'ai adoré. Voilà, donc je suis content d'en faire partie. Après, j'ai un rôle assez secondaire, mais c'était assez jouissif à faire. Ça va s'appeler Neuf Doigts. Enfin, ça s'appelle Neuf Doigts. Et après, j'ai également tourné l'année dernière au Vietnam, dans la jungle, sur un tournage quand même assez exigeant physiquement.
Et, à cause de la météo et l'humidité.
Oui, puis on était dans une sorte d'inconfort permanent, voilà, en immersion totale, film de guerre d'époque.
La guerre du Vietnam ?
Voilà, non, la guerre d'Indochine. Enfin, même, je dirais, la guérilla du Tonkin, qui en fait arrive juste avant la guerre d'Indochine. C'est les prémices de la guerre d'Indochine. Et on est sur un film de guerre qui n'en est pas vraiment un, c'est plutôt une sorte d'errance, voilà, de ces personnages dans une violence permanente et voilà, qui se perdent dans la jungle.
Un film réalisé par...
Et c'est un film réalisé par Guillaume Niclou avec Gérard Depardieu. Ah. Ça, c'est pour l'instant encore en montage. Il n'y a pas de date de sortie. Je pense qu'on va essayer de le montrer à Thierry Frémaux. On verra si on est à Cannes ou pas.
Et le titre,
c'est Les confins du monde. Et l'autre projet, le dernier que j'ai tourné l'année précédente, c'était un film de Pierre Scholler qui s'appelle Un peuple et son roi, qui est un projet très ambitieux sur la Révolution française. Alors là, ça ne couvre que la période qui va jusqu'à la décapitation du roi. Là, pour le coup, on est sur un film beaucoup plus ambitieux, déjà en termes de moyens et même de dispositifs, puisqu'on est sur un vrai film choral avec une grosse quantité de personnages.
Un peu comme La Princesse de Montpensier.
Ouais, encore plus gros là. Puis surtout, c'est vraiment plusieurs points de vue, même si je pense que l'axe du film, c'est à travers le tiers état, hein, du point de vue du peuple. Mais voilà, du coup, il y a Adèle Haenel, Louis Garrel, Denis Lavant, Olivier Gourmet, Izia Higelin. Enfin, il y a un
très... Une belle palette d'acteurs.
Voilà, une belle palette. Et ça, pareil, je pense qu'ils vont essayer de se retrouver quelque part à Cannes, on verra. Et là, je viens de commencer, il y a 2 semaines à peine, un nouveau tournage avec Guillaume Niclou, cette fois-ci pour la télévision. C'est une série en 4x1 heure pour Arte.
Voilà. Et le sujet ?
Le sujet, c'est un jeune homme qui, un jour, se voit livrer des colis chez lui, voilà, quelque chose qu'il a commandé sur Internet, et il y a un carton en trop, et dedans, il y a un cube d'un mètre sur un mètre qui lui permet de revenir 6 mois en arrière. Chaque fois qu'il va dans ce cube, il revient 6 mois en arrière et il a la possibilité de revenir dans une temporalité ou l'autre. Et donc c'est quelqu'un qui très rapidement va... Et donc tout l'intérêt est que voilà, c'est quelqu'un qui souffre encore de sa rupture passée avec son ex qui était pour lui la femme de sa vie, et il se dit que d'un coup il va pouvoir la reconquérir. Sauf qu'évidemment le passé nous rattrape toujours. Le passé gagne toujours.
Voilà. Et le théâtre ?
Le théâtre, pas de théâtre pour l'instant.
Mais vous aimez ?
J'aime bien, mais je dirais qu'à l'origine, ce qui me motive réellement, enfin au départ, ce qui m'a réellement motivé dans mon travail comme acteur, c'est l'idée de collaborer à l'élaboration d'un film, puisqu'il y a, il y a plus une passion cinéphile qu'une pure passion du jeu, bien que ça, ça a évolué un petit peu ces, ces dernières années. C'est-à-dire que j'ai redécouvert en quelque sorte mon métier. En tout cas, aujourd'hui, j'évolue avec un appétit et une exigence renouvelée.
Grâce
à Saint-Laurent, je pense. Mais pas seulement, enfin, pas juste à cause du film, de l'expérience et du personnage. C'est que, à mon avis, ce film est arrivé à un moment décisif dans mon parcours et dans aussi ma vie d'homme. Où j'étais dans une période d'un peu de remise en question, de prise de recul, et voilà, ça m'a permis de m'affirmer dans ce nouveau désir, c'est cette nouvelle direction qui m'apparaissait comme la bonne. C'est vrai qu'à un moment, voilà, comme j'ai commencé très jeune, je me suis un peu laissé aller au gré des expériences. Et à un moment, on se pose des questions. On se dit vers où je vais, vers quoi je tends, qu'est-ce qui m'anime réellement. Et voilà, aujourd'hui, j'envisage mon métier autrement.
Vous êtes plus sélectif ?
Plus sélectif, et puis avec... un nouveau moteur, je dirais, qui est peut-être cette mise en danger permanente. Oui, c'est une exigence renouvelée, avec l'idée d'être en perpétuel renouvellement, avec l'idée d'essayer
de prendre des défis, peut-être aussi.
Oui, de se dépasser, de sortir de sa zone de confort. Ouais.
Et puis dans ce renouvellement, il y a des cinéastes avec qui vous souhaiteriez travailler ?
Oh, il y en a une tonne. C'est un peu compliqué à chaque fois d'en nommer quelques-uns, si je trouve.
Voilà, comme on est à la Berlinale, je disais même des cinéastes hors France.
Hein. Bah oui, c'est encore plus dur, là. Il y en a tellement. Non, mais ça, oui. Après, je suis ravi, parce que récemment, j'ai quand même travaillé avec des cinéastes que j'aime beaucoup, qui me paraissent aujourd'hui être parmi les plus intéressants en France. Je pense à Niclou, Bonello, Bon, Jaco. Il n'y a plus rien à prouver, mais ça reste un cinéaste qui moi, me fascine. Mais après, oui, il y en a plein. Comme on est à Berlin, je vais parler de alors, je ne sais jamais comment on dit. Maren Ade. Je ne connaissais pas son travail, et c'est vrai que voilà, son film Tony Erdmann, ça m'a... Ça m'a vraiment enthousiasmé à plein d'égards, et notamment parce que souvent je m'interroge sur la comédie. On me parle souvent du fait que voilà, on m'a rarement vu dans des comédies. Est-ce que c'est un genre que je boude ? Pas spécialement, mais après il y a comédie et comédie, et qu'est-ce qui est de l'ordre du registre de la comédie, qu'est-ce qui ne l'est pas ? Donc si la comédie c'est ça, oui, ça volontiers. C'est pour moi...
Voilà, là, ça surfe sur plusieurs registres. Hein.
Ben, complètement, c'est ça, c'est un peu hybride, mais on a quand même ce sens du comique qui est présent, presque burlesque même. Non, moi, c'est un film qui m'a vraiment, vraiment...
enthousiasmé.
Oui, beaucoup.
Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter encore pour cette Berlinale ? Évidemment, de repasser sur le tapis rouge.
Bah oui. Bien que ce soit pas pour moi un but en soi, mais c'est vrai qu'en tout cas, on me parle souvent de mon César, mais vous m'en avez pas parlé, tant mieux. Mais
si vous voulez.
Non, justement parce que, enfin, je suis très heureux, et pour moi c'est important d'avoir la reconnaissance de ses pairs et de l'industrie française.
C'est quand même une consécration.
Oui, mais en fait, ce que je dis souvent, c'est que pour moi ça. C'est-à-dire qu'un prix à Cannes ou à Berlin ou à Venise, c'est différent dans le sens où pour moi je peux pleinement mesurer la valeur de ce prix, puisque je sais exactement qui me l'attribue.
Il y a une fenêtre internationale. Voilà.
Oui, après il y a évidemment une dimension plus internationale, mais je parle dans le système de vote. Alors que les Césars, je n'ai jamais su qui réellement votait, donc je ne sais pas vraiment ce que ça représente pour moi personnellement en termes de valeur. C'est-à-dire que ce prix m'est décerné par qui réellement, et puis surtout je pense qu'il est temps de changer quelque chose. Et je ne comprends pas comment on peut demander à un chef d'écho ou même à un acteur de voter de manière objective et juste sur, par exemple, le meilleur son. Pour moi, ça devrait être les ingénieurs du son qui votent pour le son, les acteurs qui... Bon, les acteurs, c'est quelque chose qui peut être apprécié par un plus grand nombre, mais voilà, il y a des choses comme ça qui... Et je pense, enfin, ne pas me tromper en disant que ce n'est pas le cas aux Oscars. Je crois qu'aux Oscars, il n'y a que les gens du son qui votent. Voilà. Ce qui, pour le coup, fait sens.
Logique, ouais. Et encore une question, là on a parlé de vos projets, vous avez le temps de reprendre un petit peu de répit, d'avoir une vie en dehors de tout, parce que ça là vous enchaînez.
Là j'enchaîne, c'est vrai, j'enchaîne, ce sont des tournages qui restent en France, là je vais...
À part le Vietnam,
où ça a été un peu dur, surtout que j'ai un jeune fils...
T'étais avec vous là-bas ?
Ben non, c'était vraiment... J'ai hésité un moment, mais on était dans des zones très reculées où c'était un peu dur pour un jeune...
Qui a quel âge ?
Qui a 2 ans aujourd'hui, enfin un peu plus, 2 ans et quelques mois, 2 ans et 2 mois. Et donc oui, le Vietnam, ça a été, je crois, 7 semaines d'affilée sans le voir, mais sinon, dans tous les autres tournages, je me suis débrouillé pour... le voir régulièrement. Et puis là, en plus, là, le tournage que je viens de démarrer est basé à Bordeaux. Et c'est vrai que maintenant, c'est 2 heures de train pour Paris, donc c'est pratique, je peux rentrer tous les week-ends.
C'est une belle région.
Voilà.
Ouais. Et puis, j'ai lu que vos parents étaient stylistes, si je ne me trompe pas.
Mes parents... mon père était designer, ouais. Maintenant, il a changé un peu d'activité. Il fait de la... l'architecture d'intérieur. Et ma mère est styliste, ouais. Toujours.
Et qu'est-ce qui vous a amené alors au 7e art ?
Le hasard, le pur hasard. Je dirais que c'est le cinéma qui est venu à moi, en fait. J'ai croisé la route d'une jeune agent qui m'a proposé de faire les castings. Et je n'avais jamais pensé faire ça. Et par curiosité, j'ai dit oui. Et voilà, ça s'est embrayé... de façon assez fluide, bien que très lente et c'était une progression assez lente et régulière, ce qui est assez appréciable. J'ai vraiment eu plusieurs
paliers.
J'ai commencé en même temps si jeune, je devais avoir 12 ans, par des petits rôles dans des unitaires pour la télévision française, puis après des rôles plus importants toujours pour la télévision, et puis après un premier rôle dans le film de Michel Blanc, qui était mon premier rôle pour le cinéma, qui s'appelait Embrassez qui vous voudrez. Puis ensuite, il y a eu le vrai déclencheur, ça a été le film de Téchiné, Les Égarés, avec Emmanuel Béart, qui s'est retrouvé à Cannes. Et à partir de là, c'est vrai que
ça s'est enchaîné.
Après, bon, il y a eu forcément des moments un peu plus calmes, mais il en faut aussi. Et c'est ce qui m'a permis justement de me recentrer et de aujourd'hui. Être totalement en accord avec mes choix et la direction que je prends. Mais c'est un peu comme si j'avais déjà 2 carrières, ouais, c'est marrant.
Bon, on va espérer que ça va devenir un mantra pour plein de jeunes acteurs en herbe. Merci Gaspard Huniel.
Merci à vous.
On rappelle que vous êtes ici pour le film de Benoît Jacquot, Eva.
Au revoir.
Au revoir.